Merci d'être au rendez-vous de l'accent des autres. Bienvenue, voici ce qui a fait l'actualité cette semaine au sein des médias francophones publics. France Inter, la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada et la RTBF. La semaine aura été marquée en Belgique par l'ouverture d'un procès en assises. Jacques Crémers, 25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda.
Un homme, un Rwandais de 71 ans, est en effet accusé de crimes de guerre mais aussi de crimes de génocide commis en 1994.
On reparle immigration au Québec, Benoît Audet, comme la semaine dernière, et ça concerne cette fois un programme qui permet de s'établir au Québec.
Oui, et il y a eu un débat au cours duquel le gouvernement a pratiquement soulevé l'unanimité contre lui.
En France, on a aussi reparlé immigration ces derniers jours. Éric Delvaux, le gouvernement Macron dit vouloir reprendre le contrôle de l'immigration.
Oui, 20 mesures présentées cette semaine, une politique plus sévère qui concernera l'accès aux soins ou encore l'immigration économique.
Sur le continent africain, Amélie, le Burkina Faso frappé par une attaque terroriste de grande ampleur.
Oui, dans l'est du pays, un convoi transportant des travailleurs miniers a été pris dans une embuscade mercredi. Le président burkinabé a décrété 3 jours de deuil national et il appelle à la mobilisation générale.
Enfin, un safari dans les Alpes suisses. Pierre Anchoffat, il suffit de payer pour tirer un bouquetin.
Oui, payer près de 20 000 euros pour emporter son trophée. Mais le Valais veut désormais interdire cette forme de tourisme qui a beaucoup choqué.
Un nouveau procès donc à Bruxelles, 25 ans après le génocide des Tutsis en 94 au Rwanda. Jacques, ce procès s'est ouvert cette semaine devant la cour d'assises.
L'accusé s'appelle Fabien Neretse, il est rwandais, c'est un ancien haut fonctionnaire, il a 71 ans, il a été interpellé en 2011 à Angoulême en France, mais c'est un homme libre qui s'est présenté devant le tribunal, le pas claudiquant, appuyé sur une canne, debout face aux magistrats, aux jurés et aux témoins. L'homme est accusé d'avoir, en tant que co-auteur, tué 13 personnes et un nombre indéterminé de victimes. Il aurait ainsi dénoncé plusieurs voisins d'origine Tutsi, des personnes qui ensuite ont été interceptées par des miliciens rwandais, puis exécutées. Et parmi ces victimes figurait une Belge, Claire Beckers, son mari rwandais et leur fille. Et c'est la sœur de Claire, Martine, qui est à l'origine de ce procès.
C'est la fin de tout un processus qui dure depuis 25 ans. Quand j'ai déposé plainte suite à l'assassinat de ma famille, de ma sœur, de mon beau-frère et de ma nièce, je me souviens de ma sœur, j'adorais ma sœur, c'était une femme merveilleuse. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important de me rappeler qu'elle a été assassinée et qu'il faut une justice par rapport à... tels actes.
L'accusé, lui, nie les faits qui lui sont reprochés. Pour son avocat, c'est même un homme détruit qui a tenté de protéger les Tutsis au péril de sa propre vie. Le procès va durer 6 semaines, mais l'un des avocats des parties civiles a déjà prévenu « Vous allez entendre des récits d'horreur, c'est l'innommable qui va rentrer dans cette salle de la cour d'assises ».
Voilà un nouveau procès Rwanda à Bruxelles, donc au moment où l'on se souvient, Amélie, des 25 ans de la création du TPIR. C'est le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il se trouvait à Arusha, en Tanzanie.
Oui, ce TPIR a été mis en place par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 8 novembre 1994. Il a clos formellement ses travaux fin 2015. En 2 décennies de travail, le TPIR a mis en accusation 93 personnes. 62 ont été condamnées, 14 acquittées. C'est également la première institution à reconnaître le viol comme un moyen de perpétrer le génocide.
Et aujourd'hui, une sorte de mini-tribunal, un mécanisme international a repris le flambeau. Ces crimes de guerre et de génocide sont imprescriptibles et certains auteurs présumés sont toujours en fuite.
L'accent des autres.
Au Québec, à présent, la semaine aura été marquée par une controverse sur la question de l'immigration. Benoît, le gouvernement québécois se retrouve en fait sur la sellette parce qu'il a proposé des modifications à un programme populaire chez ceux qui veulent s'établir au Québec.
Oui, cette disposition appelée Programme Expérience Québec permettait à des gens de s'engager dans le processus d'immigration s'ils avaient complété 1800 heures d'études au Québec. Mais dans ces réformes, le gouvernement avait décidé que seuls ceux qui étudiaient dans certains domaines de formation bien précis pourraient déposer leur dossier, ce qui éliminait de facto des milliers de candidats potentiels.
Oui, et c'est justement le fait de changer les règles du jeu en cours de route, Benoît, qui a soulevé cette controverse.
Oui, et qui a forcé le gouvernement à reculer. Donc, les étudiants étrangers déjà au Québec pourront compléter leur formation et faire une demande formelle d'immigration au Québec. Mais ce recul n'a pas mis fin à toute la contestation. Les associations étudiantes, les dirigeants d'institutions d'enseignement, de même que le patronat, continuent de décrier la réforme en accusant le gouvernement de trop restreindre les champs d'études qui peuvent ultimement mener à une résidence permanente ici.
Alors, ce qui semble paradoxal dans ce cadre, c'est que ce débat, eh bien, il intervient au moment où le Québec fait face à une importante pénurie de main-d'œuvre.
Oui, la majorité des régions du Québec sont aux prises avec un manque de travailleurs. On craint que les réformes en immigration n'aggravent cette pénurie. Le gouvernement se défend en disant que ces réformes vont justement permettre de mieux arrimer les qualifications des immigrants aux exigences du marché du travail.
Voilà donc pour le Québec. L'immigration aura aussi été un thème central en France cette semaine. Éric, le gouvernement vient de présenter une série de mesures pour, je cite, « reprendre le contrôle de l'immigration ».
Oui, ce qui sous-entend que l'immigration en France ne serait toujours pas sous contrôle. C'est d'ailleurs une préoccupation récurrente chez Emmanuel Macron, qui se voit donc reprocher par une partie de la gauche de reprendre les thèmes de la droite et de l'extrême droite. D'ailleurs, c'est déjà lui, Emmanuel Macron, qui avait réclamé il y a quelques semaines une série de débats réguliers sur l'immigration au Parlement.
Alors, une vingtaine de mesures sur l'immigration. Éric, quelle est au fond la ligne directrice qui s'en dégage ?
Oh, il s'agit surtout de lutter contre les abus liés aux lois déjà existantes en France, ce qui donne au final quelques tours de vis et des contrôles renforcés, plus de fermeté par exemple dans le domaine de la santé. Il faut dire que la France offre un système de santé parmi les plus généreux d'Europe pour les immigrés. Ainsi, l'aide médicale d'État pour les illégaux ou bien la protection universelle maladie pour les demandeurs d'asile, ces deux dispositifs qui offrent des soins gratuits ne seront pas supprimés, mais les critères d'attribution deviendront plus sévères. Et concernant maintenant l'immigration professionnelle, eh bien des quotas économiques seront instaurés selon des critères qui feront l'objet de débats réguliers. Des quotas économiques qui ont le soutien du patronat français, sauf quand cela concerne les entreprises du bâtiment, car là, les entreprises françaises ont du mal à recruter de la main-d'œuvre pour leurs chantiers. Alors au final, eh bien le gouvernement résume ainsi sa future politique d'immigration, plus ouverte pour ceux qui y ont droit et plus sévère pour ceux qui n'y auront pas accès.
Alors en parlant de sévérité, c'est une politique migratoire bien plus sévère aussi au fond que la Flandre en Belgique, Jacques, s'apprête à mettre en œuvre.
En effet, exiger plus d'efforts de la part de celles et ceux qui rejoignent notre société, c'est en résumé l'esprit de la politique migratoire que le gouvernement flamand récemment constitué a l'ambition de réaliser. Concrètement, cela signifie par exemple un parcours d'intégration obligatoire mais aussi payant et des conditions plus strictes pour accéder aux prestations sociales, une politique clairement plus à droite des partis démocratiques, en écho aux résultats des dernières élections marquées, rappelez-vous, par une forte poussée de l'extrême droite flamande.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
L'actualité francophone de la semaine, c'est aussi le Burkina Faso frappé par une nouvelle attaque terroriste. Elle vise l'armée et les civils, principalement dans le nord du pays, ces différentes attaques. Et ce mercredi, Amélie, une embuscade dans l'est a été particulièrement meurtrière.
Ah oui, cette attaque a provoqué un choc dans le pays. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière qu'a connue le Burkina depuis 5 ans. Cela s'est passé donc mercredi, le matin, à 40 km de Bungou, entre le parc du W et la réserve de Pama, une zone aurifère. Un convoi de bus transportant des employés de la société minière canadienne Semafo a été pris pour cible. Ce convoi était pourtant escorté. Vendredi, le bilan provisoire était de 38 morts, mais de nombreuses personnes étaient portées disparues. Il y a aussi des dizaines de blessés. Le président burkinabé, Rochmar Christian Kabore, a convoqué une réunion en urgence, puis il s'est adressé à la nation. Il a décrété 3 jours de deuil national.
Oui, le président burkinabé Amélie qui a aussi appelé à l'union sacrée, je cite, pour sauver le pays.
Oui, Rochmar Christian Kabore a appelé à la mobilisation de tous les burkinabés pour renforcer les effectifs engagés dans la lutte contre les groupes armés. Il a ordonné le recrutement de volontaires, mais sans donner de détails sur les conditions de ce recrutement. La société minière canadienne Semafo, elle, qui exploite la mine de Bungou depuis 2018, a annoncé la suspension des opérations jusqu'à nouvel ordre par respect pour les victimes et pour leurs proches.
Nous allons terminer en Suisse, Pierre Anchoffa, parce que beaucoup de Suisses se sont émus cette semaine du sort des bouquetins dans le canton de Valais.
Oui, un reportage de nos collègues de la télévision en effet mis en lumière une pratique que l'on croyait réservée à l'Afrique australe. Des agences de voyage proposent en effet à de riches clients étrangers de venir prélever un trophée sans trop d'efforts pour la modique somme de 20 000 francs suisses, 18 000 euros.
Oui, et dans ce cadre, Pierron, le rôle de l'État a particulièrement choqué.
Oui, exactement, car les gardes-faunes servent de guide et puis l'État encaisse près de 600 000 euros par an dans l'opération. Ces pseudo-chasseurs payent une taxe sur ces cornes qu'ils sont si fiers d'exhiber. Ministre valaisan en charge de la faune, Jacques Méline, est lui pas fier de cette forme de régulation des bouquetins.
Cet aspect négatif est peu glorieux, il faut bien le dire, cette régulation touristique ne devrait pas nous amener à condamner l'ensemble des chasseurs.
Car dans ce canton de chasseurs, effectivement, la crainte du dégât d'image, elle est bien réelle.
Alors d'où cette question, évidemment, Pierron, que va faire l'État ?
Eh bien, cette pratique dite du tir client sera interdite, assure Jacques Méli. Fini donc les safaris alpins. La régulation de l'espèce, qui compte 5000 têtes en Valais, se poursuivra autrement.
Il conviendra de toute façon de prélever environ 450 têtes par année, ce qui, une fois les tirs clients supprimés, sera réalisé par des chasseurs ou par des gardes-faunes, dans le plus total respect de l'animal.
Et l'État devra donc se passer de cette manne peu glorieuse, pour citer le ministre.
Merci Pierron Chauffat pour la RTS et merci à tous. C'était l'essentiel de l'actualité francophone de la semaine. L'accent des autres, ce sont les médias francophones publics, France Inter, la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada et la RTBF. L'accent des autres qui revient bien sûr la semaine prochaine à la même heure.